Bonjour, rebonjour, Monsieur Salgado, comment allez-vous?
Oui, ça va très bien. Bonjour, Monsieur Beauregard.
On a des, il y a vraiment de ce temps-ci une avalanche de mauvaises nouvelles, de coupures gouvernementales à Québec qui touchent de très près les personnes en situation de handicap. Il me semble qu'à tous les 3 jours, là, il y a quelque chose d'autre. On va parler, entre autres, si vous voulez bien, aujourd'hui, du premier sujet, là, c'est le programme d'adaptation à domicile. La caisse est vide.
Oui, la caisse est vide. C'est assez malheureux d'apprendre tout ça. Le ministère qui annonçait la semaine dernière que effectivement il n'y a plus de sous pour honorer ce programme qui, ma foi, on avait eu un certain gain, hein, vous le savez,
tout
dans
à
le
fait.
Passé.
Il y avait eu un ajustement.
Oui, il y avait eu un ajustement parce que, évidemment, on savait que 16 000 $ pour adapter un domicile, c'était insuffisant. Alors, on s'est rendu en commission parlementaire. La ministre a accepté de hausser à 50 000, mais on s'entend que à 50 000 $ pour adapter un domicile, encore là, personne n'a gagné à la poule aux œufs d'or. 50 000, ça ne couvre pas tout, mais quand même.
C'est parce que le plafond précédent de 16 000 avait été établi... Il y a
plusieurs années.
Presque 20 ans, et avec la hausse des coûts de matériaux de main-d'œuvre dans le domaine de la construction, 16 000, là, ça faisait pas grand-chose, c'est tout à fait juste. Mais 50, c'était déjà mieux. Mais oui. Là, il y a comme un effet pervers, cependant. C'est que d'une part, il y a eu plus de gens qui ont fait des demandes, puis en plus, ben, ils n'ont pas augmenté l'enveloppe en conséquence.
Donc, voilà. Puis, écoutez, encore une fois, surtout dans un phénomène de vieillissement de population, comment peut-on restreindre une enveloppe aussi importante pour les personnes en situation de handicap ou encore les personnes âgées? Et le fait de geler ce programme, c'est ce que le ministère a annoncé, jusqu'à nouvel ordre. Je sais que la dernière fois qu'ils ont gelé un programme, écoutez, c'était pas une question de 3 mois, là. C'est un programme qui, finalement, n'est jamais revenu. Dans
exact.
Le passé. Et là, ben, il y a des craintes, évidemment, parce que ça peut avoir un impact direct sur la qualité de vie des gens. Une accessibilité réduite, ben, pour des personnes en situation de handicap, ça risque ces personnes risquent de se retrouver avec des domiciles inadaptés.
Et dangereux, alors, par conséquent.
Et dangereux, voilà. Ça vient limiter leur autonomie, des risques accrus d'accidents. Une maison qui est non adaptée peut exposer des individus à des chutes.
Oui.
Des blessures graves et ainsi de suite. Seulement au niveau des personnes âgées, vous le savez, c'est 95 % des décès qui sont causés par une mauvaise chute. Imaginez.
Oui. Une mauvaise chute qui entraîne une hospitalisation qui n'en finit plus et puis un affaiblissement et ainsi de suite. Là, c'est comme une convalescence qui n'aboutit
voilà.
pas.
Oui. Et il y a aussi des chutes fatales également.
Exact.
Bon. Et l'isolement social aussi, l'absence d'adaptation peut rendre plus difficile la participation à des activités sociales ou professionnelles, tout simplement. Alors, l'augmentation de la pression sur les institutions publiques aussi, l'hébergement, si jamais les maisons ne sont plus adaptées ou du moins moins bien adaptées, ben il y a un risque que ces personnes se ramassent dans des institutions.
Oui, tout à fait, parce qu'il va y avoir une intervention face à la mésadaptation du logis. Quelqu'un peut se retrouver institutionnalisé alors qu'avec une adaptation, la personne serait encore autonome.
Voilà. Le gouvernement souhaite que les personnes en situation de handicap et les personnes âgées demeurent le plus longtemps possible à leur domicile, mais encore faut-il leur donner les moyens.
Oui.
Alors, ces personnes pourraient être forcées de quitter leur domicile pour être hébergées dans des institutions. Et on a vu ce que la COVID nous a réservé. Moi, écoutez, après 5 000 décès en CHSLD, j'ai arrêté de compter. Comme
oui,
bien
oui.
d'autres personnes.
Oui, oui.
Et le coût élevé aussi, quand même, un domicile mal adapté peut nécessiter plus de visites de personnes répondantes ou de soignants ou de services qui sont coûteux pour
mal adapté,
pour tout le monde.
Ça veut dire mal adapté. Voilà. Alors, c'est pas, il n'y a pas d'en sortir. Si quelqu'un habite 24/7 dans un endroit qui n'est pas fait pour sa condition. Ben, ça va finir mal, c'est presque sûr, puis ça va être très, très lourd de pallier à ces rénovations qui ne sont
oui.
pas faites. Là, il semble y avoir, de la part du gouvernement, une certaine contrition, comme quoi, n'ayez crainte, les demandes qui ont été déposées ou celles qui sont déposées, elles seront éventuellement je dirais, examinés, puis il y aura de l'argent au rendez-vous, mais ça, ça fait un bouchon qui peut être très long, même si l'argent revient, que le programme est à nouveau financé à partir du 1er avril.
Bien, là, ça, c'est évidemment des hypothèses. On a hâte de voir le prochain budget de M. Girard également à cet effet-là. Et il y a des familles qui ne peuvent pas attendre. Il y a des familles qui ont décidé de financer elles-mêmes des travaux d'adaptation. Alors, ça peut amener aussi une part financière insoutenable pour certaines familles, certaines personnes. Et ça a des impacts un peu partout. Les entrepreneurs aussi, les entreprises spécialisées dans des travaux d'adaptation pourraient subir une baisse d'activités, ce qui va entraîner des pertes d'emplois et ainsi de suite, là, une diminution sur la vitalité économique de ce secteur-là. Et ça amène un désintéressement aussi de certains entrepreneurs qui disent, ben, ça a l'air tellement compliqué, ce programme-là,
exact.
Je vais aller m'investir ailleurs
dans
des programmes plus fiables. Alors, encore une fois,
excusez-moi, M. Salgado, mais c'est votre encore une fois, et c'est ça qui me frappe, parce que non seulement l'assèchement du programme d'adaptation à domicile est arrivé vraiment comme une mauvaise nouvelle qui est apparue dans des courriels et sur des sites web là, comme du jour au lendemain. Mais en plus, récemment, on s'aperçoit que, et là, je change de sujet, mais c'est tout à fait parallèle, les chèques emploi, services qui disparaissent là. Tout d'un coup, on s'aperçoit dans certaines régions, et ça se multiplie, que les sommes qui permettaient d'avoir de l'aide à domicile, elles aussi se tarissent.
Et voilà, et voilà. Et là-dessus, on a fait paraître un papier ce week-end dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec et toutes les plateformes de Québécois pour ramener le ministre de la Santé à l'ordre. En fait, il avait la quête de trouver un top gun de la santé, à la tête de la Santé Québec, de Santé Québec, qui devait propulser notre système de santé vers des sommets. Force est de constater que le décollage amorcé est en train de piquer du nez. C'est un peu dans ce sens qu'on intervient.
Oui.
On aimerait que les coupes drastiques cessent, notamment aussi dans les heures de soutien à domicile, comme vous le mentionnez, avec le fameux chèque emploi-service. Un beau programme qui répondait il y a 22 ans, mais qui répond moins aujourd'hui à toute la situation du soutien à domicile que les personnes en situation de handicap ont besoin.
Mais c'est pas en coupant un programme qui commence à mal vieillir. C'est pas en le coupant et sans offrir d'alternative que tout d'un coup les choses iront mieux.
Et voilà. Et ça a provoqué une espèce d'onde de choc pour plusieurs familles de personnes handicapées qui se retrouvent aujourd'hui désemparées et abandonnées un peu par un système qui aurait dû mieux les accompagner. Alors, rappelons que Santé Québec est supposé d'offrir une gestion plus efficace et plus uniforme. Permettez-moi d'en douter, avec des coupures de la sorte, on se demande où est-ce qu'on s'en va exactement. On veut bien couper 1,5 milliard de dollars, mais du moins, est-ce qu'on peut aller couper dans le gras plutôt, là? Il y a des salaires de hauts fonctionnaires qui pourraient être revus de ce côté-là. Alors, le problème est double aussi. D'un côté, les coupures s'inscrivent dans une logique absurde pour atteindre le fameux 1,5 milliard avant mars, mais qui met encore une fois les plus vulnérables de notre société en ligne de mire. Alors, c'est là-dessus qu'on demande au ministre Dubé de revoir un peu sa cible et de se permettre d'intervenir. Il a donné le mandat au CIS ou au CIUS, mais c'est quand même toujours sous la gouverne de Santé Québec. Santé Québec est la gouverne sous la gouverne du gouvernement du Québec.
Qui est ultimement irresponsable. On ne peut pas dire... Voilà. Ouais, c'est vos employés, mais éventuellement, c'est le patron qui doit répondre. Voilà. Et encore une fois, c'est ça qui me frappe, c'est que ces coupures-là au chèque emploi-service sont arrivées de façon un peu brusque, sans qu'il y ait au moins une période d'adaptation. Alors, parce que on peut déjà dire que c'est brutal et injuste de le faire, mais en plus, de le faire brusquement, c'est pire.
Voilà, aucune consultation et aucune annonce. Et du jour au lendemain, les gens nous appellent parce que nous, on a, comme d'autres endroits au Québec, une banque de référence d'aide à domicile. Alors, on fournit des travailleurs à des personnes dans le besoin qui deviennent en quelque sorte des employeurs grâce au chèque emploi-service. Et puis là, ben, ils apprennent que leur heure va diminuer. Et oui. C'est assez drastique parfois. Ça peut passer de 30 heures à 5 heures semaine. Ou quelqu'un qui a 40 heures qui diminue de 50 % à 20 heures semaine. Ça change une vie, ça, évidemment. Puis j'ai pas besoin de vous convaincre. Puis M. Beauregard, vous le savez autant que moi. Alors, c'est ce qu'on dénonce un peu. Oui. Cette façon de travailler en silo sans jamais demander le pouls des personnes concernées. Et on espère toujours que l'OPHQ, l'Office des personnes handicapées du Québec, puisse prendre la défense de ces gens et ces silences radio de ce côté. Parce que l'OPHQ est une entité gouvernementale.
Okay. Ben, puis en plus, qu'il y a un rôle consultatif là et pas nécessairement un rôle de lobby ou de pression ou de représentation. Hein. C'est la définition, voilà. La définition n'est pas une définition dure.
On va dire ça comme ça. Alors, c'est un mandat de promotion, en fait.
Voilà. Ben, ça fait des bonnes. L'OPHQ fait du très bon travail à l'intérieur de son mandat, mais ce n'est pas son mandat qui va l'amener à défendre directement les intérêts des personnes en situation de handicap. Alors, voilà, il y avait déjà l'intégration au travail cet été qui avait fait l'objet de coupures et de plafonnements. On a vraiment l'impression que tout tombe du même côté. De la clôture, là, c'est vraiment ennuyeux d'apprendre ça et ça devient révoltant. C'est comme si on profitait du fait que les sans-voix n'ont pas de voix. Et ça devient tannant.
Oui. Vous avez raison. Puis en fait, ce qu'on réclame souvent aussi du côté de la COFAM, la confédération à laquelle on est rattaché, c'est que le handicap devrait être détaché complètement du système de santé. Le handicap n'est pas une maladie en soi, mais non. Trop souvent, le handicap est associé à la gériatrisation.
Exact. L'handicap est une condition sociale, c'est pas...
Voilà. Et malheureusement, la gériatrisation, trop souvent, évidente, du côté du ministère de la Santé est devenue une tendance persistante au Québec. C'est ce qui est inquiétant. Puis c'est pas moi qui le dis, là. C'est entre autres un des chercheurs, Fujurelas, là, qui dit que finalement, je pense qu'il faudrait ramener à l'ordre aussi le ministère de la Santé à cet effet-là, même le gouvernement, de dire, écoutez, l'OPHQ ou tout ce qui touche le handicap devrait relever d'un autre ministère et non pas du domaine de la santé.
Oui, parce qu'il y a la santé, il y a des services sociaux, il y a l'éducation, il y a tous les domaines de la vie qui sont en cause pour une personne ou une famille où quelqu'un est en situation d'handicap. Ben, M. Salgado, on souhaite que 2025 soit porteur de changement de cap, de correctif, parce que je pense les 3-4 derniers mois ont vraiment été un coup de trique sur la tête, un après l'autre. Et dans ce domaine-là, on espère qu'il y aura quelques initiatives porteuses et surtout une meilleure écoute. Ben voilà. Oui. Votre texte, comme vous dites, a été publié en week-end.
Oui, tout à fait, dans toutes les plateformes de Québécois.
Et j'invite les gens à y jeter un coup d'œil parce que c'est vraiment un argumentaire incontournable. Voilà.
Le titre est « Votre Top Gun pique du nez, M. le ministre ». Ça ne peut pas être plus clair.
Bon, mais on espère qu'il y aura un redressement avant que le sol ne se rapproche. Voilà. Je vous souhaite de belles fêtes là-dessus, M. Salgado.
Pareillement, M. Beauregard, pareillement. Puis merci de m'avoir invité à l'émission.
Ça fait plaisir.
Au revoir.